Mes chers amis, mes bien chers compatriotes, l'un de mes tontons est acteur, l'autre auteur. Ils étaient donc faits pour se rencontrer et si mes fiches, pour une fois, sont à jour, c'est même déjà arrivé que l'un interprète sur scène le texte de l'autre. Aussi sont-ils en pays de connaissance, mais pas rassurés pour autant car ils savent qu'ils jouent aujourd'hui très, très gros. J'accueille David Fuenquinos et David Sardou. Incroyable ! Ah, ils sont formidables ! Mes chers tontons, vous le savez, vous allez devoir répondre à ce quiz en 6 manches. Avec votre sagacité que je sens légendaire.
David et Davy, vous allez devoir répondre à un nombre hallucinant de questions carrément toutes plus politico-sociétales les unes que les autres. Attention.
Je ne sais pas, peut-être vous deviez aller ailleurs et vous êtes trompé de radio. Mais là, le gagnant repartira avec un cadeau sublime. Mais pour cela, il faut d'abord choisir votre camp. Car vous le savez, notre quiz citoyen a pour but de réduire la fracture sociale. Donc l'un d'entre vous va représenter la France d'en haut et l'autre la France d'en bas. Anissa, faites donc tirer notre jeune ami Davy Sardou. Alors j'en profite pour rappeler...
Il y a un camp favori ou pas où on est
Non, on fait ce qu'on veut. C'est suivant le sort. Je rappelle à David qu'il a été mon attaché de presse en 1993.
Oui, tu t'en souviens très bien d'ailleurs.
Je m'en souviens, tu m'en parlais juste avant. J'avais oublié.
Il a l'air menteur.
Mais c'est génial.
Alors, je vais représenter la France d'en haut.
Ah.
Voilà.
À moi, la France d'en bas.
Ouais,
oui.
Et toi, David, la France d'en bas. Alors, pour toi, David, la France d'en haut, si tu gagnes, eh bien...
Une Rolls. Non.
Tu auras une aventure.
Mieux encore.
Avec une femme issue de la France d'en haut, ce qui, selon Le Monde, est drôlement mieux, je cite, Le Monde. Plus les femmes ont un capital social et culturel élevé, plus elles semblent en mesure de s'affranchir des normes de genre qui tendent à leur imposer une vision conjugale et passive du plaisir féminin. Et par là sont aptes, et oui Anissa, à avoir un rapport plus actif, hédoniste et autonome. Il est content le Davy.
C'est bon à savoir.
La chance.
Et pour notre avis, notre ami Fuenquinos, il joue pour le prix France d'en bas. Alors une autre aventure, véridique également, mais plus France d'en bas. Tu partiras pour une galerie marchande d'Échirolles dans la banlieue de Grenoble, dans l'Isère et là. David, tu sortiras tout en tremblant ton téléphone, puis le glisseras sous la jupe d'une malheureuse victime pour faire un de ces clichés coquins que tu affectionnes. Hélas, sans savoir que celle à laquelle tu vas t'en prendre est une gendarme en civil. Tu termineras ta journée en prison. Oh David, c'est ça la France d'en bas.
Alors, en plus d'avoir été votre attaché de presse, David Fuenquinos, il est auteur et son dernier livre...
Aucun souvenir
non plus. Son dernier livre, Deux Sœurs, est sorti jeudi dernier chez Gallimard. Du jour au lendemain, c'est l'histoire d'Étienne qui décide de quitter Mathilde et l'univers de la jeune femme s'effondre. Elle est dévastée et elle va retrouver sa sœur Agathe dans le petit appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric. Ah, la suite, la
vous
suite,
racontez bien,
elle
Anissa.
Est à découvrir.
Ça donne envie de le dévorer.
Ça donne envie, ouais.
Et puis pour tous ceux qui ont lu le mystère Henri Pic et qui ont adoré comme nous tous, eh bien sachez que le mystère Henri Pic arrive au cinéma le 6 mars prochain. C'est un film signé Rémi Besançon avec Fabrice Lucchini et Camille Cotin entre autres. Et puis David Fuenquinos, il est président du salon Lire à Limoges qui se tiendra du 3 au 5 mai prochain.
Ça va pour lui, il était attaché de presse, il est président.
France d'en bas.
Mais je rêve. L'ascenseur social, il l'a pris.
C'est l'ascension de la France d'en bas, attention.
Il faut se méfier de lui.
Et David Sardou, il est en tournée à partir du mois de mars avec la pièce signée Dumas qu'il a joué toute cette saison au Théâtre La Bruyère avec Xavier Lemaire, Thomas Sagol. Et puis les premières dates, alors ça, accrochez-vous, parce que pour David Sardou, ça marche bien. Première date à Hong Kong, s'il vous plaît, dans le cadre d'un festival francophone où les recettes iront à l'ONG pour un rêve d'enfant qui aide les enfants défavorisés au Cambodge.
Vachement bien. Alors mes chers tontons, je vais rentrer dans le vif du sujet avec ce qu'on appelle ici les bio-fake news.
Alors comme son nom l'indique, il y a du vrai, mais il y a du fake. C'est à vous de faire le tri et c'est surtout à vous de nous dire toute la vérité.
D'autant qu'elles vous sont délivrées par un être misérable. Notre jeune stagiaire, Ganesh,
ça évolue chaque fois.
Qui vise BFM TV et personne ne veut de lui à BFM TV. Et du coup, et voilà, c'est un peu notre boulet ici sur le bras. Attention, on va commencer par Tonton David avec un D.
Tout ce que l'on sait de l'enfance de David von Kinos, c'est qu'il a vu le jour un beau matin d'octobre 1974 à Paris.
C'est vrai.
Jusqu'à l'âge de 16 ans, rien n'a signalé, selon ses biographes, sauf qu'il est un fan rendu hystérique par les gloussements orgasmiques de Mylène Farmer. À tel point qu'à force de tenter stupidement d'imiter la voix suraiguë de cette déesse rousse, sanglée dans son juste corps de hussard sexy, laissant apercevoir sa délicieuse poitrine,
vous égarez.
David est hospitalisé pour une affection de la plèvre à 16 ans.
Eh oui, et ça c'est vrai.
Oui, mais j'avais pas vu le rapport entre ma maladie et Mylène Farmer.
Bah si.
Là, il y a eu un enchaînement un peu bizarre.
Mais non, tu essayais de faire la voix. Ouais. Vas-y, refais-la. Je suis libertine, vas-y, tu le fais très bien.
Je suis libertine.
Et voilà comment tu il est tombé malade. Allez, Ganesh.
Pour guérir, David doit subir une opération à cœur ouvert, assortie à la demande expresse de ses parents d'une lobotomie pour oublier Mylène. Là, les chirurgiens se mélangent quelque peu pince et scalpel. L'espace d'un instant, David est donné pour mort.
C'est vrai.
David est très loin, très très loin, confronté comme tant d'autres à cette expérience du tunnel et du retour à la vie. Sauf que lui, dans le tunnel, il est le seul à voir Mylène Farmer. Mylène Farmer serait-elle Dieu finalement ?
Eh oui, effaré par cette perspective, David revient aussitôt à la vie, avec une énergie, ma foi, de vie décuplée. C'est-à-dire que subitement, tu te mets à tout aimer, un désir de connaissance du monde, de jouissance. Tu parles même de sensualité décuplée. Tu vas nous expliquer ça, David. Merci, Mylène, en tout cas. Tu es revenu, tu as vraiment...
Oui, alors ça, sur la maladie, le retour, tous ceux qui ont été gravement malades connaissent ça. Effectivement, après, je suis revenu à la vie avec... j'étais pas issu d'un milieu culturel. Je me suis mis à lire, à écrire, à faire de la musique, à aimer la peinture, l'art d'une manière générale, la beauté.
La beauté. Voilà. C'est magnifique, Ganesh. Et pas à toi que ça arriverait.
Et non, effectivement. Moi, c'est BFM.
Continue quand même.
Forcé de garder la chambre après une opération aussi lourde, David von Kinos en profite pour découvrir deux nouvelles passions, la guitare et la littérature. Après avoir suivi des études de lettres à la Sorbonne et s'être initié au jazz en parallèle, David von Kinos entame donc tout naturellement son parcours professionnel en tant que professeur de guitare, ce qui ne le mènera strictement à rien.
Oui. Sauf à être ça, mon attaché de presse quelques années plus tard, rapport.
Oui, mais attends, c'était un boulot à mi-temps.
C'est vrai, en plus, tu étais attaché de presse
à mi-temps. Quoi.
Oh, je te remercie. Oh, il me cherche, il va me trouver. Oh, voilà un petit tonton qui va mal finir. Il va terminer dans le fossé.
Allez, on va voir maintenant si vous êtes aussi précis avec David Sardou.
Ganesh, dernière chance.
J'ai très peur.
Comme son nom l'indique clairement, David Sardou a la chance d'être issu d'une dynastie illustre d'artistes, les Sardou. Pensez que pas moins de 80 générations de Sardou se sont succédées sur les planches depuis la nuit des temps.
Oui.
Leur vocation artistique est un atavisme familial. Flavius Histrion, le célèbre historien romain du IIe siècle, parle déjà d'un comédien nommé Sardouvius Sardasticus, esclave piébo de Massilia, qui faisait rire l'empereur Pinon III en lui chatouillant la voûte plantaire. Plus tard, dans le haut Moyen-Âge, on retrouve un Sardou le bref, mais gros, ménestrel de son état, qui enchantait les dames de la cour avec son gros luth.
Comme David.
Plus près de nous, son arrière-grand-père, le comédien et humoriste Valentin Sardou, puis les extraordinaires Fernand et Jackie, puis Michel.
Je tiens à préciser que Jackie et Michel ne sont pas de la famille Sardou.
Non,
c'est
Carl.
Merci.
C'est un hommage. Ouais, c'est un hommage de leur part.
Bah, évidemment.
David décide dès son plus jeune âge d'être comédien. En 1998, le voici à New York, élève assidu du meilleur cours de théâtre du monde, l'Institut Lee Strasberg.
Moi, je prononce. Tu le fais bien l'accent.
Tu Merci.
Peux refaire, s'il te plaît,
Lee Strasberg.
Strasbourg même.
Là, il assiste aux légendaires séances de l'Actors Studio.
Ouais.
Je le fais toujours bien. Extraordinaire école de comédie où l'on apprend à ne rien faire, être naturel, qu'elle a 16. Ne rien faire est tout un art, ne pas bouger un cil, ne pas porter la voix et surtout ne pas en faire trop, contrairement à nous, les voix de BFM TV. Ah, comme le cinéma français aurait été différent si tous ces fleurons étaient passés comme des vies par l'Actors Studio. Pierre Richard n'aurait pas été aussi maladroit. Depardieu aurait appris ses textes et aurait arrêté de picoler. Et enfin, Clavier n'en aurait pas fait des tonnes.
Mais ça aurait été moins bien, Ganesh, en fait.
C'est vrai.
Revenons à l'Actors Studio pour financer tes études. Tu travailles à ce moment-là dans un resto, David.
Ouais, serveur dans un bistrot corse.
Le Charlot. Tenu le Charlot. Par Corse.
De Corse.
Ah, David, Bruno et Thierry. Bruno et Thierry.
J'ai bien travaillé.
S'ils nous écoutent, on les salue. Et là, tu vas faire la connaissance d'un client un peu spécial qui réserve plus ou moins le restaurant pour lui tout seul.
Ah, c'est pas qu'il le réservait, c'est qu'on vidait tout le monde quand il arrivait. En gros, c'était un peu pour le laisser tranquille. C'était Al Pacino.
Oh
des places de l'air. Et alors, tu sympathises avec lui? Tu lui dis, je suis un jeune comédien.
Je sympathise, on va dire, c'est un grand mot. Non, je sympathise pas. Je lui sers son café, c'est déjà pas mal. Et un jour, sur la note, il m'a laissé un petit mot en me disant bon courage pour ta carrière.
Extraordinaire, on l'applaudit.
Super.
Incroyable histoire. Alors Anissa, je me tourne vers vous, la Rose des Sables. Qu'est-ce que vous dites maintenant ?
Eh bien, alors le bilan de cette première
sourire,
manche,
sourire, voix,
parce
sourire.
Qu'il faut qu'on commence voix, quand
sourire,
même sourire. À compter des points.
De
ouais, c'est un bilan de vie déjà.
Encore.
C'est ça. Alors on va vous accorder un point chacun parce que je pense que vous nous avez tous les deux dit toute la vérité.
Bon, pas Fuenquino, il ment tout le temps. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?
Alors, ce sont les sons, comme chaque jour, qui vont représenter nos tontons flingueurs. Dès que vous mènerez dans une manche, on entendra votre son. Alors, pour David Fuenquinos, c'est ça, bien sûr.
Mais tu es vraiment fan de Mylène ?
Non.
Mais il adore Mylène.
Il est fan.
Écoute, entre 13 et 14 ans.
Et d'ailleurs, Mylène est là.
Et si seulement. Pour David Sardou, ça sera ce son.
Ah oui, bien sûr.
Le brigadier.
Un peu lugubre.
Les trois coups de théâtre. Ah, pour ouais. L'homme de théâtre qui est David Sardou.
C'est gentil, merci. Ça me
je
va
crois
très
que c'était
bien comme
son
ça.
Papa en colère qui tape sur la table. Europe
1. 15-0 et ses tontons flingueurs font le tour de l'actu jusqu'à 18h sur Europe 1.
Alors David Fuenquinos, en 2010, tu t'es essayé à un genre nouveau. Oh, pour toi en tout cas, celui de la biographie romancée. Tu as écrit un ouvrage consacré à ton musicien fétiche, le co-leader des Beatles, John Lennon. Donc voici un petit quiz Lennon insolite, ça te va ?
Parfait.
Jingle ! C'est dommage, c'est pas la télé, parce que la Ganesh, Anissa, ils secouent la tête comme des petits chameaux, là, ils sont contents. Ah, je rêve. Dans quelle adaptation cinéma d'un livre John Lennon a-t-il failli jouer ?
S'agissait-il de Guerre et Paix ?
S'agissait-il du Seigneur des Anneaux ?
Ou s'agissait-il du Rouge et du Noir ? Enfin, le Rouge et le Noir.
Un silence lamentable de la part.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Eh ben voilà, c'était bien la
il
peine
d'écrire. Il aurait dû jouer dans un film, dans un de ces trois films.
Rouge et Noir ?
Il devait tourner.
Je dirais Guerre et Paix, allez. Oui.
Guerre et Paix, Rouge et Noir pour l'un. Eh ben, vous êtes deux énormes buses. C'est le Seigneur des Anneaux.
Et attends, attends, qui et a ouais. Cette info ?
Eh bien, non, il aurait joué Gollum.
C'est BFM qui vous a dit ça, non ?
Pas du tout. C'est CNews. Il aurait joué Gollum dans une adaptation réalisée par les Beatles eux-mêmes, mais qui n'a jamais vu le jour.
C'est un projet. C'est
un projet. Ça. Et ça, ça vous clôt le bec. Il aurait fait Gollum.
J'aurais plus vu Yoko.
Oui, à mon avis, ils étaient bien bourrés le soir. Ils ont prévu de faire.
Vrai ou faux ? Profitant de l'histoire. Durant les concerts, Lennon s'amusait parfois à modifier les paroles de ses chansons car personne ne le remarquait. Vrai ou faux ?
Moi, je dirais vrai aussi.
Vrai pour les deux. Et un point, Anissa, pour chacun.
Je note.
I wanna hold your hands est devenu sur scène I wanna hold your glands.
Ah oui.
Littéralement,
c'est pas la même chose.
Tes seins.
Oui.
David,
tu sais
que
bien,
c'est des seins,
ouais,
tu me regardes
avec. Pas, non, mais effectivement, j'apprends des choses, c'est
your
bien
glands.
Quoi.
Quelle bande dessinée met en scène la première rencontre entre Lennon et McCartney ?
Tintin ?
Blake et Mortimer ?
Watchmen. On les voit se rencontrer.
Watchmen.
Moi, je dirais
Blake et Mortimer, je dirais.
Et c'est un bon point pour David.
Oh
c'est effectivement.
J'adore ce petit côté vicieux.
Blake et Mortimer dans
il
l'album.
Il aime bien mettre un peu de tension entre nous, tu vois.
Ah, c'est sûr, vous repartez brouillé. Dans l'album La Machination, Voronoff, pages 54 et 55. Alors, j'explique. Je vous fais un peu le tableau. Lors de la fête paroissiale de Woolton, dans la banlieue de Liverpool, nous sommes le 6 juillet 57. Mortimer demande à Paul McCartney où est le prêtre, puis se rend à la scène où joue John pour le trouver.
Je crois que c'est le 16 juillet 57.
Alors c'est une erreur de fiche, ce n'est pas une erreur qui est due à moi. Et d'ailleurs, moi je n'ai pas de point, donc je m'en fous. À qui a appartenu ensuite le piano sur lequel Lennon composa le tube légendaire Imagine ?
Le piano blanc. Hein.
George Michael ?
Elton John ?
Ou Sting ?
Vas-y David, je te laisse. Ouais, j'aurais dit Elton John aussi.
Bien sûr, bien sûr. Ouais. Des conneries, on peut en dire jusqu'au bout de la nuit. George Michael a acheté en 2000 pour plus de 2 millions de livres sterling. 2 300 000 euros le piano blanc de Imagine.
Mais je crois qu'il l'a offert à Elton John après, non ?
Et mon cul, c'est du poulet. John Lennon et Yoko Ono ont réalisé une trentaine de films expérimentaux. L'un d'entre eux s'appelle Self-Portrait. Que représente-t-il, Till ?
Il représente le sexe de John Lennon au mieux de sa forme.
Il représente John Lennon mangeant un cheeseburger.
Ou il représente John Lennon sous la douche.
La douche.
Self-portrait, John
Lennon.
Moi,
je dirais son sexe en érection, allez.
Et c'est encore une fois Davy Sardou.
Wow.
Qui finalement est champion, John Lennon. Ou en photo de sexe au mieux de leur forme. Dans ta collecte de figurines Panini. Quel président américain a tenté de faire expulser le couple Yoko Ono Lennon ?
Richard Nixon.
Gerald Ford.
Ou Jimmy Carter ?
Nixon.
Qui a dit Nixon ?
David.
Fuenkinos.
Moi, je dirais quoi ?
Bonne réponse de M. Fuenkinos ! Incroyable,
Nixon, il a été vraiment, pour le coup, extrêmement virulent avec Lennon.
Ah ouais. Bah,
ouais.
Il a empêché d'avoir sa carte verte.
Si jamais il avait réussi à l'expulser, John Lennon n'aurait pas été assassiné à New York.
En hommage de quel activiste John Lennon a écrit une chanson ?
Martin Luther King.
Malcolm X.
Ou Angela Davis ?
Ah, c'est Angela Davis, je crois.
Il est très très bon.
Ouais, c'est une très belle chanson d'ailleurs.
C'est toi qui as écrit le livre de David
Fuenkinos. C'est moi qui ai écrit le livre de David Fuenkinos. Et je signale à tout le monde que David Fuenkinos joue à ma place.
Vous me verrez à Hong Kong la semaine prochaine.
Oui, je me rappelle de cette chanson, Angela. Ouais.
Anissa.
Alors, le bilan de cette manche, c'est David Fuenkinos qui a écrit le livre de John Lennon, mais c'est Davy Sardou qui mène sur ce quiz.
C'est incroyable, tout est possible ici.
Attendez le questionnaire théâtre, vous allez voir, il va me laminer.
Tous les jours sur Europe 1 à partir de 16h, Carl Zéro est entouré de ses tontons flingueurs pour jouer avec l'actu.
Alors David, justement, en 2016, tu as brûlé les planches dans une pièce superbe, écrit de main de maître par ton ami David Fuenkinos, qui s'appelle « Le plus beau jour ». Fort de cette passion commune pour le rideau rouge et les trois coups, il ne m'en fallait pas davantage pour vous proposer ce quiz « Anecdotes et superstitions théâtrales jingle ». Oh, bien trouvé ! Bravo la régie !
Ils sont forts, hein ?
Eh oui !
Superstition, ils ont cherché, quoi.
Vachement
pour une
bien.
Fois que Carl connaît la chanson, ça fait plaisir.
Alors toi, tu vas épeler à Cédic rapidement. Il y a deux S. Pourquoi la tragédie Macbeth, signée Shakespeare, est-elle réputée maudite ?
Je le savais.
Et là, et en plus, on ne dit pas ce
titre de pièce, on ne le dit pas dans un théâtre.
Pourquoi on ne le dit pas ?
Parce que ça porte malheur, mais alors pourquoi ?
Qu'est-ce qu'on dit ?
On dit la pièce écossaise.
Bonne réponse !
Ah oui. Mais pourquoi alors ?
Eh bien, parce qu'il y a la douche écossaise, et il y a également la pièce écossaise.
Quelqu'un qui meurt à chaque représentation.
Eh bien, ça vient des anglo-saxons, et généralement,
ils ont raison.
Non, tort. C'est comme ça, on adopte toujours leur mode. Vrai ou faux, pour un comédien, il n'est pas de bon augure même de siffler sur scène.
C'est vrai qu'il n'est pas de bon augure, c'est vrai.
Et pourquoi, monsieur ?
Parce que ça rappelle les marins. Les marins sur un bateau sifflaient pour communiquer entre eux. Et donc, comme c'était les marins qui montaient les décors de théâtre, ils ne sifflaient pas sur un plateau.
Ah, c'était les marins qui montaient à l'aide de cordes.
Exactement. Ah ouais. Et donc, on ne dit pas cordes non plus dans un théâtre.
Et on dit quoi ?
On dit rien.
On évite de dire le texte.
Non, mais c'est vrai que les superstitions de marins se rapportent au théâtre. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, en effet, on ne dit pas cordes.
David Reyna ajoute.
Je dirais vrai, j'ai jamais vu une pièce où un personnage siffle, c'est vrai ça.
Alors, est-ce qu'il...
Sauf le siffleur, peut-être. C'est ma prochaine pièce que je suis en train d'écrire.
Le siffleur.
Et si ça se trouve, je vais ne raconter que des conneries. Hein. Je ne sais pas, Carl va...
Non, tu en sais même plus que mes fiches, puisque moi, il y avait écrit une superstition issue des régisseurs qui sifflaient pour prévenir les changements de décor. Et tu m'as donné un élément, c'est que ces régisseurs, à l'origine, étaient des marins.
Des marins, exactement.
Et voilà, qui levaient et descendaient
et
les énormes décors.
Pour communiquer sur un bateau.
Moi, je propose deux points là pour Davy.
Non, parce qu'après, tu remonteras jamais. Tu ne remonteras jamais. Attention, vrai ou faux ? Il ne faut surtout pas offrir de tulipes à une comédienne.
C'est faux, c'est pas les tulipes, c'est les chrysanthèmes, non ?
Non, ça c'est aux personnes décédées.
Ça c'est pour la Toussaint.
À moins que tu connaisses une comédienne décédée, tu peux lui offrir des chrysanthèmes.
Les tulipes, non, je savais pas, je ne connais pas cette superstition.
Eh bien c'est faux, c'est
donc
d'autres
c'est faux.
Fleurs.
Eh bien c'est pas les chrysanthèmes.
Mais pas du tout. Pas du
ah,
tout.
Ah, c'est les... Ah, je sais. Je vais le trouver.
Mais oui.
Des œillets.
Quelle heure ? Oui, bonne
voilà,
réponse.
C'est ça,
bonne réponse du public qui a
merci
dit...
Merci, madame.
Car au 19e siècle, c'est ainsi qu'un directeur signifiait à une comédienne qu'il voulait la congédier. Quand il la trouvait nulle, il lui offrait des œillets. C'est ce qu'on offrira à notre ami Ganesh.
Je pense que j'aurai juste un SMS, moi.
Vrai ou faux ? Historiquement, au théâtre, le crottin de cheval était gage de succès.
Alors ça, j'en savais rien. On dit merde hein, avant une représentation pour souhaiter bonne chance.
Ouais.
J'ai bien envie
donc
de dire oui, moi.
J'aimerais bien, ouais.
Ouais. Et alors, vous m'expliquez pourquoi ? Parce que c'est vrai.
Alors, je ne sais pas pourquoi.
Vous avez un point déjà
tous
les deux.
Je veux bien apprendre.
Eh bien, à l'époque où les spectateurs se déplaçaient en calèche, une époque que vous n'avez pas connue, mais que j'ai connue, la quantité de crottins devant un théâtre donnait une indication de sa fréquentation. Un peu comme pour nous, médiamétrie.
Médiamétrie.
Aucune comparaison, c'est ça.
C'est pour cela.
Ouais, mais la calèche, c'était encore plus fiable que médiamétrie.
C'est pour cela que pour se souhaiter bonne chance, les comédiens se souhaitaient beaucoup de crottins de cheval devant le théâtre et se disaient merde. On applaudit.
La culture.
Eh oui, la culture des fiches, c'est ce qu'il y a de mieux.
Alors sur cette manche, le bilan, eh ben, il est encore pour David Sardou qui mène encore face à David Fuenkinos.
Non mais là on va tricher à la prochaine.
Ouais, on va tricher. Europe 1. De l'actu, des quiz, des anecdotes et beaucoup de bonne humeur. C'est le programme tous les jours et même le week-end à partir de 16h sur Europe 1 avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs.
Alors après enquête, on l'a dit en début d'émission, mon cher David, on a découvert que dans ta prime jeunesse, parallèlement à tes très sérieuses études de lettres à la Sorbonne et à ton rôle à mes côtés d'attaché de presse, tu avais suivi un cursus musical plus que bohème qui t'avait mené Tudor, jusqu'au métier de prof de gratte. Alors au tout début, tu prétendais que c'était parce que tu n'avais pas trouvé de bassiste que tu ne te lançais pas dans la carrière. Vrai ou faux ?
Oui, j'ai dit quand on me demandait, quand j'ai publié mon premier roman, pourquoi j'écrivais, j'avais répondu
plutôt que de faire de la chanson.
Parce que j'ai pas trouvé de bassiste. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'essayais de monter des groupes, ça marchait jamais. Puis parallèlement, j'écrivais, j'ai envoyé un manuscrit, j'ai été publié.
Et ça a marché.
Ouais. Et depuis, tous ceux qui veulent que j'arrête d'écrire me proposent leur service de bassiste.
On s'acharne, dis-tu, sur un destin qui n'est pas le nôtre. Alors, histoire de réveiller le guitar-héro qui sommeille en toi, j'ai donc décidé de vous faire, à toi et à ton complice du jour, David Sardou, un quiz sur les plus grands riffs de l'histoire du rock'n'roll.
Ah, yes.
T'as vu, ça le fait tout de suite.
Ah ouais, là ça devient sérieux. Hein.
Je demande à notre cher public, vous êtes là ?
Ouais !
Vous avez le droit de secouer la tête en cadence. Et nos jeunes amis vont me dire quel est le titre et l'interprète. Premier extrait.
C'est de la rapidité, hein.
Nirvana.
Oh, en cœur.
Mais chacun en cœur.
La tête.
Alors en même temps, c'est normal qu'ils aient reconnu, car c'est leur génération de paltrac. Voici un truc plus de ma génération.
Johnny Hooker. Ouais.
Non, c'est...
Non.
Johnny B. Goode, c'est
Johnny B. Goode,
Chuck Berry.
Chuck Berry, bonne Berry, réponse.
Merci.
Monsieur l'auteur, professeur de guitare, Fuenkinos. Merci pour Chuck. Rentrez-le dans son petit cercueil.
Non.
Numéro 3. Oh, ça, c'est tellement
c'est
facile.
C'est ZZ
Top.
Non, c'est
ZZ Top. Tu vas faire pipi une heure.
C'est
le titre.
Highway to Hell, je raconte.
C'est
Highway to Hell.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Highway to Hell !
L'autoroute vers l'enfer que suit notre ami Ganesh quand il prend de la drogue.
Eh oui.
Je vois que le public est survolté.
White Stripes. Ouais. Elephant.
Qui a dit Elephant ?
David
Fuenkinos.
C'est le titre de l'album, mais le morceau c'est
Seven Nation Army. Seven
Nation. Yeah.
Oh, yeah. Yeah.
Carton.
On est d'accord que c'est un riff de basse et non de guitare.
Oui, c'est
hein.
La basse. Ouais.
C'est le fameux bassiste que tu n'as pas trouvé. Quel dommage que tu n'aies pas rencontré. Un peu plus ancien.
Hendrix.
Ouais,
Foxy Lady.
Oh, bravo.
Non.
Ah, il
est terminé. C'est pas ce titre.
Purple Haze.
Ouais. Attention, ça, c'est toute ma jeunesse.
Ah,
Captain, Cream.
Non, non.
Oh non,
non. C'est pas, non.
Ah, quand même, je suis vieux, mais pas à quoi là.
Ouais, ouais. C'est pas Aerosmith.
Bah non,
non,
c'est plus ancien, t'as vu. Ça c'est tac, blocage générationnel.
Il y avait le même mot dans le titre de Jimi Hendrix qu'on vient d'entendre.
Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on
a pu
secouer
nos têtes. Ouais, attends, là, je l'ai.
Souviens-toi.
Deep Purple.
Bonne réponse.
Évidemment.
Et le titre. La fumée dans la pluie. Ouais. Smoke on the water. Magnifique. Ah. Les débuts de la confrontation entre le hard rock et le rap.
Aerosmith
et Run DMC.
Ah ouais. DMC.
Et le titre
Walk This Way.
On l'écoute. Quelle énergie, c'est fantastique. Merci. Et maintenant, beaucoup plus difficile, on écoute. Très célèbre, on ne souffle pas le public.
Santana ?
Non.
Un Santana sous l'exomie.
Paco de Lucía.
C'est un nom de film qu'il faut trouver.
C'est le nom du film.
C'est un titre de film qu'il faut trouver.
Eh oui, un titre de film.
C'est la bande originale d'un film.
Mais d'un
très
film
célèbre.
Que vous n'avez pas vu, c'est un vieux film.
Que Karl a regardé dans sa grotte, il y a très longtemps.
Je n'ai que ce film en VHS. Je le regarde tous les soirs. Si je vous dis jeu.
Jeux interdits.
Ouais.
Jeux interdits.
C'est pas le thème le plus connu de jeux interdits.
Et le
ouais.
guitariste. Comment c'est pas le thème? C'est le thème de Jeux interdits.
Bah oui.
Où il va, lui? Et bien sûr, le guitariste, c'était Anissa...
Narciso Yepes.
Ton cousin.
Voilà. Absolument.
Ton cousin.
Oui.
Ton cousin. Attention, c'est parti. Ah, Ganesh se coule la tête, donc ça veut
Ganesh
dire...
Ganesh est 2000. Chaud, là.
Ça veut dire
non,
année
non,
2000.
Non, bah non, jamais. J'aurais redit Nirvana, mais c'est pas Nirvana.
Il a fait sa crise d'ado dessus.
C'est pas Nirvana.
Ah, c'est pas les mecs de Californie, là.
Oui.
Ouais, c'est eux.
Ah, Gilbert. Non, c'est pas non. eux.
Gilbert Bécon, non.
Ah, quel... on connaît que Red Hot Chili Peppers.
Non.
Mais non,
c'est,
non.
Ce dit, c'est ce qu'il vient de dire, mais non, non.
Un peu plus ancien que les Red Hot.
Ouais.
Avec AC/DC, c'est l'autre groupe.
C'est pas les Guns.
Non.
Mais...
Mais je vais dire ce que c'est.
Mais.
Meta.
Mais je ne sais pas.
Meta.
Metallica.
Ouais.
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 C'est ça.
Ouais, j'ai
les moumous, hein.
Ah ouais, Metallica. Voilà.
Et le dernier. Alors là, c'est la rapidité
ah
tout
ouais.
de suite.
Ah, facile.
Vous devez le dire tout de suite.
Les Stones.
Les Stones.
Ah, okay.
Satisfaction.
Okay.
Ah, bah ouais.
Et là, je me demande, Anissa, si David. Tu trouveras ta satisfaction plus tard, Anissa. Là, tu me dis.
Alors, ce que je peux vous dire, Karl, c'est que c'est un renversement de situation. C'est ce qu'on appelle la remontada dans le monde du football.
Et bien sûr.
David Fuenkino est en tête face à
ouais,
Anissa.
Incroyable, incroyable. Et il partait très bas.
Dès 16h, tous les jours, du lundi au dimanche, sur Europe 1, Karl Zéro et ses tontons flingueurs s'amusent avec l'actu.
Alors David Sardou me le confiait en antenne en arrivant, il était en pleurs et il me dit « Être fils d'eux, ça n'est pas toujours une sinécure. Papa m'a encore tapé. » Certains artistes peuvent parfois, c'est pas le cas de Michel, mais se montrer écrasants avec leurs enfants, comme s'ils ne voulaient pas qu'ils réussissent à leur tour ou à leur place. Et toi David, tu dis être un grand artiste, c'est souvent avoir un énorme ego. Mais mon père ne m'a pas particulièrement encouragé, mais pas non plus empêché non plus de faire ma carrière. Donc finalement, tout est bien, qui finit bien.
Je David. Trouve aussi,
c'est,
oui.
C'est sympathique. Oui. Alors je vous propose un petit quiz enfant de star.
Les enfants sont merveilleux.
Attention, comment s'appelle l'un des enfants du couple Beckham?
Brooklyn Beckham.
Manhattan Beckham.
Ou Jersey Beckham.
Brooklyn,
ouais.
Mais comment vous savez un truc
Mais tout le monde le sait, ça.
Oh bah là,
à part les gens qui vivent dans des grottes.
Ouais, là, on est...
Qu'est-ce que vous avez contre les troglodytes ? Jersey Beckham, c'est mieux parce que c'est là où ils ont leur compte en banque.
Pas mal.
Comment s'appelle une des filles de Sylvester Stallone ?
Sistine.
Magdalene.
Lourdes.
Sistine.
Mais c'est dégueulasse.
Mais oui, je sais.
Ça fait penser à cystite.
Ah non !
Chacun des cinq enfants a un prénom qui commence par S. Il y a donc cystite, cystine, Sage Moonblood, Sergio, Sophia Rose et Scarlett Rose. Il a produit plus d'une dizaine de films. Mais de qui Dimitri Rassam est-il le fiston ?
Il est le fils de Carole Bouquet,
de Judith Godrèche
ou d'Anémone.
Oui, moi, Carole Bouquet.
Oh, Carole Bouquet, oui.
Bonne réponse des deux, bravo les gars. Arthur Donald est le petit-fils de
Walt Disney,
Paul McCartney
ou Frank Sinatra.
Je dirais McCartney.
Non, je dirais Sinatra.
Eh bien, c'est David Sardou qui emporte le point.
C'est quoi ?
Je suis désolé, c'est bien Arthur,
désolé,
Donald,
là,
McCartney. Donc tout ce qui touche aux Beatles, en fait, une bille.
Mais moi, la
musique,
t'as bien fait de faire la guitare. Bon. Joseph Baena est le fils caché de
Stallone,
Schwarzenegger
ou des Beatles.
Ah, je dirais les Beatles. Stallone, on sait, par élimination, Beatles.
Il a fait un prénom avec un S, donc
S, on va dire
Schwarzenegger.
Eh ben oui, bonne réponse, c'est le fils qu'il a eu avec son ex femme de ménage et dont il n'a révélé l'existence qu'en 97. Attention, c'est la dernière. Carrie Fisher, la célèbre princesse de Star Wars, était la fille de
Debbie Reynolds,
Audrey Hepburn
ou d'Elizabeth Taylor.
Debbie Reynolds. Ouais.
Ah voilà, la Star Wars génération au grand complet. Bon, je ne sais plus du tout qui peut être gagnant de cette
année. Moi, j'aimerais bien avoir les comptes.
Eh bien, c'est normal que vous soyez perdu parce que David Sardou et David Fuenquinos nous réservent le match le plus haletant de l'année.
Non.
Si.
Il y a match nul, égalité sur cette manche.
Incroyable, incroyable, incroyable.
Alors, vous comprenez pourquoi j'ai fait exprès de mal répondre au début ?
Ouais. Bien sûr.
Pour créer du suspense, bien pour équilibrer sûr. Jusqu'au final.
Ça, c'est l'auteur en toi qui crée la dramaturgie.
Et Europe numéro 1 vous remercie également. Un petit chèque vous attend en sortie.
Des tontons flingueurs, Carl Zéro, de l'actu, des jeux et de la bonne humeur. C'est votre programme, même le week-end, sur Europe 1 à partir de 16h.
Il faut absolument les départager, Anissa, Ganesh.
Oui, il faut, bien sûr, bien sûr.
Eh bien, je pense que leur passion commune pour la musique va faire l'essentiel de cette dernière manche. Alors, tonton David, si j'ose dire, ta passion pour la musique ne fait plus de doute. Tu as voulu être guitariste, tu n'as pas pu. Toi, tonton David, la musique est dans les gènes, évidemment, de ta famille. Et donc, il va falloir maintenant nous démontrer les capacités de vos organes respectifs, dont on m'a dit qu'ils étaient très gros. Et chanter, n'y voyez pas...
Finesse.
Et chanter pour les Françaises et les Français qui réclament à corps et à cri au 39-21 sur les réseaux sociaux, cher aussi, Anissa,
bien sûr.
Ou sur les mails, cher Aganesh,
oui, c'est vrai.
Et sur le Minitel, cher à moi, un final en chanson. À chacune de ces émissions, voici donc le karaoké des tontons. Jingle.
Happy birthday to you.
Sympa.
Happy birthday to you.
D'accord. Pourquoi pas ?
C'est Lino dans les tontons flingueurs, ça.
Mais bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ça n'est pas une mollesse de la régie, ça n'arrive. Pour David, j'ai choisi un classique de Michel Berger. Il s'agit d'Il jouait du piano debout. Pourquoi ? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'il jouait du piano debout. Et donc, concentre-toi bien, mon Fuenquinos, ça va être à toi. Il y a 10 secondes d'intro, très joli au piano, et puis tu attaques.
Génial en chanson.
Très jolie version.
On m'avait pas prévenu de ça.
Très jolie version. Attention.
C'est là.
Ne dites pas que ce garçon était fou.
Bien.
Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout.
Et on n'entend pas.
Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon ne valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez.
Merci. Très bien débrouillé.
Surtout qu'il n'a aucun retour, il chante comme ça, il n'entend pas la musique.
Il chante a cappella et heureusement qu'il n'a jamais fait de disque. Mais on peut quand même. Non, tu as été très très bon, j'aurais pas fait mieux. Surtout, tu aimes vraiment Michel Berger alors.
Ah oui, je suis complètement fou de Michel Berger.
Ça s'entendait. Et de France Gall. Alors pour mon ami David Sardou, eh bien j'ai choisi une chanson de son grand-père et non pas de son père, ça aurait été beaucoup trop facile. Alors on réécoute d'abord.
Bah oui, c'est sûr.
On réécoute d'abord Fernand Sardou dans son
dans
plus grand tube.
Il y a une peine terrible, dont la grosse branche pourrait bien tomber. Sur mon pauvre toit, quelle belle cible. Cette branche-là, je vais la couper.
Toute une époque, moi j'adore. Voilà le genre de disque que j'écoute dans ma grotte. Et j'ai le droit.
Mais j'ai perdu l'accent du sud.
On s'en fout, tu le fais en David et pas en Fernand. C'est pas une imitation, tu n'es pas Cantlou. Attention, on envoie le playback. Attention. Go.
Devant ma maison bien peinte terrible,
bien,
dont la grosse branche pourrait bien tomber. Sur mon pauvre toit, quelle belle cible. Cette branche-là, je vais la couper. Aujourd'hui peut-être,
ou alors demain.
Je suis pas du tout dans le rythme, mais bon,
c'est pas grave.
Ce sacré soleil me donne la flemme, je la couperai après-demain. Et si je peux pas la couper moi-même, et je demanderai à la Mitona qui la coupera aussi bien lui-même. Ce n'est pas qu'on est feignant par ici, mais il fait si chaud dans notre midi.
Moi je vois David. Hein.
C'était pas du tout dans le rythme, mais.
Mais bon. C'est pas grave parce qu'il y avait
l'orchestration
était un peu piano bar.
Ouais, un peu jazzy.
Voilà,
un
ça
peu,
faisait crooner, ouais. C'était ouais. Bien et on sent quand même que.
Enfin un chanteur dans cette famille quoi.
La vanne de la journée est signée Fuenquinos. Alors, eh bien, le temps qui nous était imparti s'est écroulé,
oui,
ma
alors,
chère.
Ouais,
qui a gagné
que...
la chanson? Parce que c'était un duo ou c'était un...
J'ai, David, hein. J'ai un très gros problème. Une fois n'est pas coutume, je crois.
Vous
je
vous
crois, car... parce qu'une fois n'est pas coutume,
il y a des
que nous allons réconcilier les deux
milieu.
France.
Oui, les deux France se réconcilient.
Et nous allons finir sur une égalité.
Folleville.
Ah, magnifique.
C'est merveilleux.
Égalité entre David Sardou et David Fuenquinos.
Et à part faire les cons à Europe 1, ils font quoi ces deux-là?
Ah bah, ils font plein de choses. David Fuenquinos, il a sorti un livre il y a une semaine qui s'appelle « Deux sœurs ». Il est sorti chez Gallimard.
Oui.
Et le mystère Henri Pic, que tout le monde a adoré,
oh bah ouais.
Il sort le 6 mars au cinéma. En plus, il est signé Rémi Besançon. Rémi Besançon, il avait fait, entre autres, « Le premier jour du reste de ta vie », pour ceux qui avaient adoré le film. C'est avec Fabrice Tucchini, Camille Cotin, et il est président du salon Lire à Limoges. Donc, vous pourrez le voir à Limoges du 3 au 5 mai prochain. David Sardou, lui aussi, il est très occupé puisqu'il part en tournée tout le mois de mars avec la pièce signée Dumas, qu'il a jouée toute cette saison au Théâtre La Bruyère. Il va donc passer près de chez vous, allez le voir. Et puis, il y aura des dates à Hong Kong, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent à Hong Kong sur
Bien
europe1.fr.
Oui.
Il sera là dans le cadre d'un festival francophone. Les recettes iront à l'ONG pour un rêve d'enfant qui aide les enfants défavorisés au Cambodge.
Vous en parlez bien, Anissa. Bravo.
Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h sur Europe 1, vous écoutez Carl Zéro et c'est Tonton Flingueur. La suite, c'est juste après les infos de 17h.
Mes chers amis, mes chers compatriotes, deux phénomènes télévisuels exceptionnels, de talent comme de longévité, ont accepté de venir croiser le fer sur cette antenne d'Europe numéro 1 aujourd'hui, sous ma houlette sévère mais juste. À ma droite, le drôlatique casse-cou, le trompe-la-mort du rire, l'invraisemblable Vincent Lagaffe. Il fait très bien les jingles avec sa langue. À ma gauche, le polyglotte polysportif le plus volubile de la planète, Nelson Montfort.
Merci, bonjour à vous tous. Merci.
Alors, mes chers tontons, vous allez devoir répondre avec sagacité, intelligence et brio, trois qualités qui vous caractérisent, à des questions, ma foi, politico-sociétales, d'une grande portée intellectuelle, quasi cosmique selon Raël, qui nous écoute depuis le Canada et qu'on salue.
Ça commence bien.
Au bout de ces six épreuves, l'un d'entre vous repartira avec un cadeau, ma foi, épatant, intersidéral. Mais d'abord, il va falloir choisir votre camp. Alors, France d'en haut ou France d'en bas, car trop occupés que nous sommes pour garder des ronds-points ou participer au grand débat national, nous faisons malgré tout, nous ici à Europe 1, petitement, tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire cette fracture sociale. Anissa va donc vous faire tirer au sort, mon cher Vincent Lagaffe, dans cette urne transparente.
Là, c'est une chance sur deux.
Ouais,
une chance
sur
deux d'être France d'en haut, France d'en bas.
Bah j'y retourne.
France d'en bas.
Vous avez deviné.
Ah, il a dit j'y retourne. J'ai parcouru son dossier, et c'est vrai que c'est pas joli joli.
Je présente déjà mes excuses à la cour.
Alors pour toi, le prix France d'en bas, eh bien, c'est un beau cadeau. Tu pars une semaine avec l'acteur Guillaume Canet au sein de la société... de l'association, j'arrive même plus à lire, Solidarité Paysan, pour une plongée dans la dure réalité agricole d'aujourd'hui, pour laquelle l'acteur a pris fait et cause. Alors ne délire pas, n'espère pas y croiser Marion Cotillard, Vincent, l'amour ne sera pas dans le pré. En revanche, tu écluseras quelques crocs avec Fifi, Gégé et autres Dédé, avant de te régaler d'une soupe de racines.
C'est un cadeau formidable
pour la France d'en bas. Mais... la France d'en haut, évidemment, c'est fatalement, c'est un cadeau beaucoup plus beau pour Nelson Montfort. Si jamais il remporte ce quiz, tu vas faire un beau geste pour un ami de la France d'en haut de toujours. Tu vas aider François Hollande à revenir en politique en jouant avec lui la carte de la jeunesse de France. On écoute.
Chers lycéens, et si je venais vous voir ? C'est pourquoi, si vous le décidez, avec vos enseignants, vos chefs d'établissement, je peux aller à votre rencontre et avoir avec vous une discussion libre où vous me poserez toutes les questions que vous voudrez. Je suis prêt à y répondre autant que je le pourrai dans les deux mois qui viennent.
Et
à bientôt.
François Hollande qui a lancé cet appel il y a quelques jours, il n'a eu aucune réponse à ce jour d'aucun jeune. C'est donc à toi, Nelson Montfort.
Il a une certaine disponibilité,
il n'a rien à foutre
en ce moment,
mais... et il a besoin de toi pour lui ramener du jeune. On compte sur toi. Mais quelle est l'actualité de nos deux tontons flingueurs, Anissa ?
L'actualité de nos tontons du jour, elle est assez chargée. Nelson Montfort, vous êtes maître de cérémonie du Music Tour 2019, les Copains d'abord and Guest. C'est un Music Tour en hommage à Georges Brassens. Et ça va vous plaire, Carl, parce que vous allez pouvoir entendre le gorille en version merengue, Jolie Fleur en version jazz,
j'adore,
les Copains d'abord version salsa. Il y a beaucoup d'autres surprises. Tiens, quelques dates. Ils seront le 20 juillet à Samoins, à Enghien-les-Bains le 18 octobre, à Deauville le 19 octobre. On vous tiendra bien sûr au courant sur Europe 1. Et Vincent Lagaffe, vous aussi, vous êtes beaucoup pris, parce qu'à partir du 6 mars, alors Vincent, il revient au théâtre.
Quelle drôle d'idée !
Théâtre du gymnase Maribel, dans la pièce à succès de Philippe Lelouch, Jeu de la vérité. Alors, il est aux côtés de Christian Vadim, Mélanie Page, David Brécourt. Et c'est quand même une chouette histoire de quinca qui se retrouve. Ils retrouvent leur amour de jeunesse.
Oui.
Et là, elle a une révélation fracassante à leur faire. Bah, la suite, il faut aller au théâtre du Gymnase Maribel. Hein.
Ouais. Oh, bah, elle est enceinte de la gaffe.
Ah, ben bah, vous verrez, vous verrez.
Entre autres.
Maintenant que chacun est équipé de son dossard, France d'en haut et France d'en bas, nous allons mieux vous découvrir et c'est l'heure de vous présenter le déplorable Ganesh.
Le déplorable.
Le stagiaire de BFM TV oui. que nous avons récupéré.
Malheureusement.
Et qui, à part sa voix, n'a pas grand-chose pour lui. On y va. C'était en jingle, Ganesh.
Vincent Lagaffe, né Vincent Rouil, le 30 octobre 1959 à Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime, a un lourd secret.
Eh oui.
Il déteste se voir à la télévision, n'aime pas entendre sa voix, et si d'aventure, il a le malheur de tomber sur une photo de lui dans un magazine, il fond en larmes. Résultat, Lagaffe aura passé sa vie à essayer de se supprimer par tous les moyens possibles. Heureusement, en vain, à ce jour. Marin-pompier pendant son service militaire, puis géo au Club Med, Vincent Lagaffe accumule ce que ses supérieurs prennent pour des bourdes ou des gaffes, d'où son surnom de la gaffe, mais qui n'en sont pas. Ce sont en réalité autant de tentatives de suicide déguisées.
Ah,
ainsi,
voilà.
En 2007, il se casse plusieurs côtes, se déplace le coude et se fracture le bras dans un simulacre d'accident de jet ski, après avoir convaincu son propre fils de lui passer dessus en jet ski.
Et oui, et là, ça c'est vrai.
Oui,
il t'est passé dessus.
Un peu de choses vraies, ça s'est passé comme ça. J'ai pris mon fils en pleine gueule. Mais c'est pas en jet ski, c'est en flyboard. En fait, c'est sur l'eau. Et
c'est quoi la différence entre les deux ?
Alors, le jet ski, c'est un scooter des mers. Et le flyboard est un tuyau branché au scooter des mers qui permet de monter en l'air grâce à la pression hydraulique.
Un tuyau.
Voilà, comme un tuyau de pompier.
Non. Ouais, mais il vit dans une grotte, donc il ne voit pas du tout ce que
Et tu montes au bout d'un tuyau.
Et tu montes à une vingtaine de mètres au bout d'un tuyau grâce à la pression de l'eau.
Ceux qui ont assisté à Fort Boyard l'été dernier, dont j'ai eu le plaisir de faire partie, ont vu donc, les démonstrations de Vincent, qui, je veux dire, sont vraiment très très fortes. Hein. C'est parce qu'il faut quand même tenir en équilibre là-haut. Hein.
Deux ans plus tard, rebelote, mais en quad cette fois, dans le désert tunisien, lors d'un improbable raid, uniquement organisé pour en finir. Plus récemment, lors de tests médicaux pour l'émission L'Aventure Robinson, l'animateur se voit diagnostiquer une malformation cardiaque avec une artère bouchée à 97% qu'il s'était bien gardé de révéler aux organisateurs, espérant ne jamais revenir de cette aventure Robinson.
Eh oui.
Vincent Lagaffe est alors opéré en urgence, opération durant laquelle il fait un arrêt cardiaque, mais l'a encore raté contre toute attente. Lagaffe revient à lui. Alors, Lagaffe serait-il immortel ? Cette question, qui a fait l'objet d'un débat lors des derniers entretiens de Bichat, partage le corps médical, pour les uns, oui, et à ce titre, son ADN devrait entrer au patrimoine mondial de l'humanité sous l'égide de l'UNESCO, tandis que pour d'autres, Lagaffe est un imposteur doublé d'un schizophrène dangereux qui fait semblant de se détester, mais s'adore en réalité, et qui, à ce titre, mérite l'internement.
Alors, sans aller jusque-là, quelle est la réalité ? Est-ce que tu t'aimes ou est-ce que tu t'aimes pas ?
Je me déteste.
Mais pour quelle raison ?
C'est comme ça.
Tu es plutôt un mec sympa, t'as une bonne gueule.
Ah mais non, mais je dis pas que ma compagnie est désagréable, mais professionnellement, quand je me vois à la télé ou quand je me vois en photo ou que je m'entends, je trouve que ça sonne faux. Voilà, je ne comprends pas
ton succès.
Ouais, c'est mais très étrange. Tant mieux.
Et toi, Nelson, tu t'aimes ou tu t'aimes pas ?
Sur Vincent, après.
Ganesh.
Bien que né en mars 1953 d'une mère néerlandaise et d'un père américain, Nelson Montfort est sans doute le journaliste sportif préféré des Français.
Ah oui.
Et ce, grâce à son extravagante facilité linguistique qui consiste à parler dans toutes les langues à la fois, tout en traînant sur certains mots et en les accentuant, ce qui lui vaut d'être la cible favorite de tous les imitateurs depuis plus de 30 ans. Exemple made in Europe 1, Canteloup.
Le service de Nadal a été chronométré à 212 km/h. Eh bien, il y a plus rapide. C'est la vitesse à laquelle nos tennismen français se font dégager de Roland-Garros. C'est du 300 km/h assuré.
Oh, merci Nelson.
C'est très bon ça.
Mais c'est vrai que tu les fais vivre tous ces imitateurs.
En tout cas Nicolas qui est chaque matin sur cette antenne est devenu vraiment un fil des ans. Ainsi que ses auteurs Philippe Cavrivière qui a un talent extraordinaire que tu connais sûrement.
Et Laurent Vassilian.
Et en plus Nicolas les cite toujours etc. Et je trouve que chapeau à outroir devrais-je dire.
On continue Ganesh.
Maniant également l'espagnol, l'italien, le portugais et l'espéranto, le polyglotte invente une nouvelle profession. Intervieweur sportif multilingue. Et depuis que ce soit au bord de piscines olympiques, sur les pistes d'athlétisme à Roland-Garros ou sur les patinoires, Nelson Montfort plante son micro sous les nez de tous les champions, même Mickey, pour France Télévisions. Sauf que cette même France Télévisions, invitée à faire des économies, envisagerait de se débarrasser de 2000, je suis choqué, de 2000 personnes d'ici 2022 dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Et qu'il semblerait que Nelson Montfort ait été désigné comme volontaire.
Oh, c'est pas possible, Nelson, qu'en est-il ? On te pousse vers la porte ?
Pas du tout. C'est ce qu'on appelle peut-être un fake news dans le langage d'aujourd'hui. Ouais. J'ai au contraire reçu de très très jolies assurances, non seulement de la direction, mais en plus du public, ce qui me fait très plaisir. Et pour faire court, c'est vrai que quand on travaille sur une chaîne de service public, au fond, le véritable patron, entre guillemets, n'est-ce pas le public ? Vincent ne contredira pas. Je veux dire, voilà, le terme d'animateur, de journaliste populaire, c'est quelque chose que je revendique. C'est pas quelque chose de péjoratif, c'est quelque chose qui m'est très cher. Et d'ailleurs, quand nous commentons, et j'en termine, quand nous commentons le patinage avec Philippe Candelero, qui je crois est un grand ami de Vincent, je veux dire, on touche le plus grand nombre pour un sport qui apparemment est plutôt confiné aux valses de Vienne et aux jabots un peu style Henri III, Henri IV. Non, là, avec Philippe, on fait de ce sport un sport populaire au
donc
vrai et
beau sens
du mot.
Donc ils viennent pour vous, parce qu'ils vous aiment, et c'est pour ça que vous allez rester du coup confiant.
C'est gentil, car en tout cas, j'essaye, oui. Voilà, j'essaye.
On l'applaudit. Ouais, tu vois, même sur Europe 1, tu es très populaire comme Vincent. Alors Anissa, qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette foutue émission ?
Déjà, on va compter les points de cette première manche, hein, parce que ça reste un match quand même entre Vincent Lagaffe et Nelson Montfort.
Il y a déjà eu un match.
On s'est pas battu là.
Ils sont pas encore battus.
Alors vous nous avez dit tous les deux la vérité sur vos bios. On va vous accorder un point chacun et on commence avec une égalité un partout entre Vincent Lagaffe et Nelson Montfort.
Et là, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? C'était quand même pas un jingle, ça.
Alors non, c'était les sons de nos tontons flingueurs du jour. Parce qu'à chaque fois que vous serez en tête, il n'y aura pas égalité tout le temps. À chaque fois que vous serez en tête, vous aurez un son qui va vous représenter. Pour Nelson Montfort, c'est ça. Parce que Roland Garros sans Nelson Montfort, ça n'existe pas, bien évidemment.
Mais là, c'était un peu une version Jackie et Michel, quand même.
C'était le tournoi féminin, en effet. Et pour Vincent Lagaffe, c'est ça.
Ça, c'est en X, ça.
Non. Le générique de K2000 avec David Hasselhoff. C'est la voiture qui parlait.
Voilà, c'est
parce que
casse-cou.
C'est ça, Vincent Lagaffe, il est fou de sport mécanique, donc on a pensé que K2000 c'était bien pour lui.
Bien vu, bien vu. Un point de plus, t'es gentil, tu notes.
Ah bah non, je proteste.
Europe 1, 15-0 et ses tontons flingueurs font le tour de l'actu jusqu'à 18h sur Europe 1.
Mon cher Nelson, tu as attendu février 2009, soit quasiment 25 ans, pour révéler un terrible, un lourd secret. Tu as vu, en compagnie de ton épouse, un ovni dans les Alpes en 1985. On écoute.
L'observation était la suivante. J'ai vu un objet lumineux, je dirais rectangulaire, très très lumineux, mais très très lumineux. Et puis à un moment donné, alors il allait vraiment doucement, pas un bruit, pas un bruit. L'objet a fait une sorte d'oscillation à 45 degrés et là, il est parti à toute vitesse dans l'espace, si je puis dire.
Et voilà, donc il t'arrive de prendre de la drogue, mon cher Nelson, de temps en temps. C'est bien.
C'est 2009, donc déjà il y a 10 ans, je n'ai rien à ajouter ni à enlever, surtout.
Non, ils ne sont pas revenus
à ce témoignage. Non, je n'en ai pas revu depuis. Mais ce témoignage, Karl, sachez-le, confirme, enfin conforte beaucoup, beaucoup d'autres témoignages, notamment sur la luminosité d'une part et l'absence totale de bruit, de moteur ou autre d'autre part.
On a toujours un peu peur d'avoir de l'air ridicule quand on raconte des trucs comme ça, mais à Cavalère, j'en ai vu un.
Oui,
mais Vincent, de toute façon, il y a à peu près 50%, plus de 50% des Français, pas seulement des Français, de la population mondiale qui aujourd'hui y croit. Le seul problème, c'est que soit on y croit totalement, soit on n'y croit pas du tout. C'est pas entre les deux. Et voilà, nous ne sommes pas des îles lumineuses pour autant.
Au-dessus des îles du Levant, et bon, c'est une île militaire, on pourrait dire que c'est un missile qui passait ou qui stagnait ou un satellite ou quelque chose, mais c'était trop bas pour être un satellite. Et j'ai vu un point lumineux qui ne bougeait pas. Et le temps que j'aille chercher ma compagne pour lui dire viens voir, quand elle est arrivée, le truc est parti à une vitesse, mais autre que ce qu'on peut connaître mécaniquement.
Mais il ne voulait peut-être pas voir ta compagne.
C'est pas non plus obligé d'être désagréable.
Dès lors, mes amis, puisque tous les deux vous êtes fanas d'extraterrestres, s'impose le quiz Raël ou X-Files.
Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour.
Alors, c'est très simple, vous allez comprendre. Je vous cite une affirmation. Et vous devez me dire si elle est tirée de la pensée surnaturelle de Raël ou du cerveau malade de Chris Carter, le créateur de X-Files. Ok ?
Jusque-là,
soit
oui.
C'est du Raël, soit c'est du X-Files. Attention, première proposition. Une huile noire d'origine extraterrestre est capable de prendre le contrôle de chaque individu.
Je X-Files ?
Oui, moi aussi.
Bonne réponse des deux. Les extraterrestres ont prédit la destruction de l'humanité dans une guerre nucléaire mondiale.
Ah, c'est la question,
moi, je dirais
ça.
Moi, je dirais que c'est l'affirmation. C'est Raël, là.
Là,
oui,
c'est
je dirais que c'est Raël.
Oui, oui, c'est Raël, tous les deux. Ouais. Eh bien, effectivement, c'était dans les années 70. À plusieurs reprises, il a rencontré des extraterrestres qui lui ont confié que nous mourrions tous dans une guerre nucléaire mondiale. C'est
il
horrible.
Il n'a pas précisé l'année.
Il a parlé de 2019-2020.
On s'en approche bien. Hein, on s'en approche bien.
Fin février, début mars 2019.
On n'est pas loin. D'abord, il y aura des extraterrestres en gilet jaune qui vont apparaître. Et puis... Bref, les extraterrestres ont envoyé tous les prophètes sur Terre pour faire passer leur message extraterrestre.
Là, ils nous ont bien fait chier quand ils ont fait ça.
Là, je parle de Bouddha, Jésus.
Je dirais Raël, ça aussi.
Ça, c'est du Raël.
Ouais, ouais. Ça a été le début de la galère, ça. C'est, hein, quand on a commencé à mélanger le début. De la... Non, c'est bien raélien, ça.
Ouais, c'est raélien, ça.
Bonne réponse, effectivement, c'est de Raël. Ouais. Vous êtes très, très fort.
On va faire une égalité parfaite, Nelson.
Toutes les formes de vie sur Terre ont été créées par les extraterrestres.
Raël.
Alors là.
Suspense.
Ah, ben alors peut-être qu'on va. Bah, dis le contraire, Vincent. Ouais, comme ouais, ça, X-File. Ça nous départagera.
X-File.
Et c'est Raël, Vincent.
J'y pensais, mais bon.
Ou c'était pour céder un poids à ton
ami. Oui, voilà, c'est ça. Il appelle ça parce qu'il est fair play.
Sa petite sœur a été enlevée par des extraterrestres.
Bah, c'est Raël.
Oui, Raël.
Eh bien non, c'est X-File. Le personnage principal, Fox Mulder, a vu sa petite sœur enlevée par des extraterrestres, d'où sa vocation.
C'est le début.
Dans le feuilleton.
Oui.
C'est le tout début. Celui qui a été enlevé par des extraterrestres, du moins le dit-il, c'est Raël, pas sa petite sœur.
Ah oui, alors c'est de là qu'est venue la confusion. D'accord.
La petite sœur a toujours dit à Raël, arrête tes conneries, Christian, puisqu'il s'appelle Christian.
Et n'empêche qu'ils nous l'ont renvoyé, Raël. Hein. Ils ont dit, non, on va pas garder ça. Hein, reprenez votre truc, là.
Le but est de maîtriser le clonage pour arriver à l'immortalité grâce au transfert de mémoire.
Ben non, là, j'irai X-Files.
Ah, ben alors très bien. Comme ça, on va être départagé. Moi, je dirais Raël. Donc voilà, on va
et
peut-être.
Et là, c'est Nelson qui marque le point.
Pardon, Vincent. Non, pardon.
Deux points d'avance, c'est bien.
Et voilà comment on nique facilement ses adversaires. Je te félicite. Je me tourne vers la délicieuse Rose des Sables, Anissa.
Bah, j'ai le meilleur assistant pour compter les points aujourd'hui parce qu'il suit au point près. Et effectivement, Vincent Lagaffe a raison. Nelson Montfort a deux points d'avance sur cette manche. Et il mène donc. Face à Vincent Lagaffe. Tous les jours sur Europe 1 à partir de 16h, Carl Zéro est entouré de ses tontons flingueurs pour jouer avec l'actu.
Alors mon cher Vincent Lagaffe, au fil de ta longue et riche carrière cathodique, il t'est arrivé de pousser la chansonnette. Chacun se souvient de ceci.
La Zoubida voudrait bien y aller. La Zoubida voudrait bien y aller.
Avec sa mère, c'est peu aller danser.
Non, 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 ma
fille, vous irez vous coucher.
Attention, il y avait aussi ça.
Il est beau, il est beau, il est beau, le lavabo.
C'était bien, un peu répétitif mais sympa. C'était la mode.
C'est pas que c'était la mode, c'est que le but c'était quand même de faire le truc le plus nul possible, mais de faire en sorte que ça marche.
Et ça a marché.
Et ça a cartonné.
Combien avez-vous vendu de disques?
Oh, je ne sais pas. Un petit million, crois-je.
Ah ouais?
Mais oui, ça m'étonne pas.
Ouais, je crois qu'on a fait 1 million de lavabos et un peu plus 1 million de Zoubida.
Je voulais vous demander également, mon cher Vincent Lagaffe, si vous aviez suivi les carrières respectives de tous ces animateurs et animatrices qui eux-mêmes se sont lancés dans la chanson avec des succès divers.
Quelques-uns.
Eh bien, ça va être le thème de notre quiz, auquel évidemment mon ami Nelson va participer, car il y aura peut-être même des chansons dans d'autres langues. Attention, jingle.
Attention,
vous entrez dans la quatrième dimension.
Eh oui, la quatrième dimension, parce que ce sont des tubes venus d'on ne sait où. Très curieux, je vous balance donc des extraits. À vous de me dire quel animateur ou animatrice télé se cache derrière ces pépites méconnues. Et on commence par ça.
Ben, tout ça c'était bien beau, mais on était dans l'Ardèche. C'est alors qu'on a eu l'idée de s'installer dans la douche. Vêtu de peau de bête, on avait un sacré look. Même si parfois on s'acharnait à très...
Pas évident. Je suis
c'est un animateur que vous pouvez voir à la télé à l'heure du repas.
Donne ma langue au chat. À l'heure du repas, à l'heure du déjeuner ou à l'heure
c'est
du
Reichmann.
Dîner
du déjeuner. Jean-Luc c'est Reichmann. C'est Reichmann. Raga Baba, une espèce de reggae ou de ragamuffin.
C'est lui qui a commis ça.
Ouais. Eh oui. Eh oui. Quatre exemplaires vendus.
À sa mère, à son père, et il a acheté les deux derniers.
Exactement. Mais il y a eu aussi dans les chansons From Outer Space ceci.
Je sais, c'est Mimi et Jean-Pierre Foucault.
Bonne réponse. Tu tenais la guitare, non?
Oui. Non, pas dans cet enregistrement-là, mais je jouais cette chanson à la guitare. D'ailleurs, c'est une chanson qui a, je vous dirais, 70 peut-être par là.
Ouais. J'ai eu un dire 70
très
ans.
Succès.
C'est une chanson qui a 70
pas
ans.
Pas loin. Mais c'était plutôt une jolie chanson.
New York City, ça
exactement, New York City.
Ouais. Il a fait ça, Jean-Pierre.
Ah, il a des conneries.
Le coup de téléphone ce soir, là, je vais la faire.
Alors, ceux-là, tu ne pourras pas les appeler. Écoute.
Moi, je suis dans Interville.
Je suis... Guilux.
Ah bah, c'est Léon Zitron. Guilux, c'est Zitron.
Le tango d'Interville.
Ah, mon Guilux. C'est lui qui m'a mis...
Le pied à l'étrier.
Ouais,
la complètement. Tête dans le sable.
Non, c'est lui qui m'a... Avec la classe, hein, il a sorti la classe.
Ouais.
Et c'est lui qui faisait les premières...
Ah, il produisait la classe.
Ah, il était le producteur de la classe.
Et
on passait les auditions devant lui. Et c'est lui qui m'a pris.
Il t'a trouvé marrant.
Eh bien, mon cher Lagaffe, vous êtes engagé.
Et c'était terrible parce que moi, c'est une anecdote que j'adore. On m'a pas dit du tout, et je savais pas ce que c'était que le monde de la télé. Moi, je sortais du Club Méditerranée où tout est permis et tout est no limites, sans fil. Donc tu fais ce que tu veux à partir du moment où ça fait rire les gens. Et donc moi, je me permets de raconter un truc qui pourrait être irracontable et impossible à raconter maintenant ici. Je raconte une histoire de bonne sœur, d'une tombola de bonne sœur, et la chute est mais monstrueuse. Et moi je raconte ça sans me douter qu'on est à 20h en face des journaux télévisés. Et là, au moment où je raconte, où je balance la chute, Guilux s'étouffe, il coupe l'émission, il arrive sur le plateau, il fait le petit blond là. Il sort, il change de métier. Et donc, je me fais virer le jour de la première enregistrement. Et le lendemain, son assistante Sandra Blachère me téléphone en disant « Monsieur Lux est fou furieux parce que vous n'êtes pas sur le plateau de la classe ». J'ai dit, mais il m'a viré hier. Il dit, oui, mais ça, il va vous virer plusieurs fois.
Génial.
C'est drôle, ça.
Extrait suivant.
Un grand vaisseau de pierre au milieu de la mer. Une salle au
vous
trésor.
Vous connaissez bien, Vincent.
Il faudra être le plus
c'est
fort.
Un de vos amis.
Du haut de sa vigie.
Oui, alors ça concerne Fort Boyard, à l'évidence.
Quand il n'est pas à la télé, il conduit des métros.
Pipi. Et le plus vite possible.
Il va le dire dans un instant.
Il faudra toutes les clés.
Il conduit des métros.
Ouais.
Ça concerne Fort Boyard, c'est ce dont nous avons parlé.
C'est une personne
c'est
de taille réduite.
Ah oui,
Anthony, Passepartout.
Voilà. Je suis Passepartout. Du Fort Boyard, je guide les casse-cou dans les traquenards qui rêvent.
Il est toujours là, fidèle au poste. Lui, hein.
Mais c'est vrai, il conduit les métros.
Il travaille à la RATP. Ouais, quand il ne tourne pas pour Fort Boyard, vous pouvez le voir sur la ligne 1 d'ailleurs.
C'est quelqu'un d'adorable.
Et
les deux,
quand il conduit le métro et que tu es sur le quai, t'as l'impression que le métro est automatique.
Extrait suivant.
Le bel azur me met en rage, car le plus grand bonheur qui me fut donné sur terre, je dois au mauvais
c'est toi
temps,
ça
je dois...
C'est Nelson Montfort.
Il me tomba d'un ciel d'orage.
Par un soir de novembre, à cheval sur
avec
les
avec qui Michel Drucker
de Brest, avec des cris putois.
Ah oui.
Allumer ses feux d'artifice.
Il est moins bon Drucker, évidemment.
Non, j'ai ma voisine affolée.
Et ça, c'est durant votre tour de chant.
C'est-à-dire que Michel, en fait, a eu la gentillesse de nous recevoir et même de devenir un petit peu le parrain de ce spectacle, qui est donc un spectacle, comme le disait Karl à l'instant, d'hommage à Georges Brassens à travers ses plus belles chansons. Et on a un petit peu plus de dates que ce que vous aviez dit, Anissa. On a une dizaine de dates qui commencent à tomber, notamment pour cet été.
On va le redire sur la fin.
Non, mais
je vais toutes les redonner. connaissance.
Mais là, Anissa, il est temps. Il est temps de faire le bilan.
Et bien, sur cette manche, nous sommes sur une égalité entre Vincent Lagaffe et Nelson Montfort.
Nous n'avons donc que 2 points d'écart.
Voilà. De l'actu, des quiz, des anecdotes et beaucoup de bonne humeur. C'est le programme tous les jours et même le week-end à partir de 16h sur Europe 1 avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs.
Que ce soit en patinage ou en tennis, ta spécialité, Nelson, c'est le commentaire sportif. Tu as d'ailleurs publié nombre de perles sur le sujet, ainsi que sur ta carrière en général. J'ai plusieurs titres, c'est à vous Nelson, Nelson Montfort hors antenne ou encore les perles des journalistes sportifs en 2015. Et toi de ton côté Vincent, tu es fan de sport, il y a celui avec ton tuyau là, j'ai rien compris, de sport mécanique également. Bref, vous faites du sport et vous en regardez tous les deux, vous en commentez parfois et maintenant on va jouer avec le quiz Play by Play.
S'il vous plaît, prenez-moi.
Quelle était une des expressions favorites de Thierry Roland?
Ah là 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 là.
Les blés sont fauchés et surfauchés.
Ce n'est pas la ligne droite de Longchamp.
On pointe la lune et l'arbitrage regarde le doigt.
Je dirais la ligne droite de Longchamp parce que Thierry s'intéressait également beaucoup aux courses.
Oui, je suis un peu d'accord avec, Nelson.
Effectivement, bonne réponse. On peut également citer « Ces deux-là ne passeront pas leurs vacances ensemble ».
Ah oui, génial.
Ah oui.
Fauché comme un lapin en plein vol, il a avalé la trompette. Ça, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Le ballon est allé dans le zig et lui est allé dans le zag.
Ouais.
Et il n'a pas fait le voyage pour rien. Il nous manque Thierry Roland.
Ouais. Ouais.
Blind test maintenant. Quelle était l'épreuve remportée par la France au cours de cet incroyable finish? Pas évident.
Je crois que je sais.
Est-ce que c'était
la finale championnat d'Europe 4x400 mètres féminin?
La finale olympique du 100 mètres?
La finale championnat du monde 100 mètres air?
Je crois que je sais. Mais je vais laisser Vincent répondre parce que j'étais sur place, donc ça serait injuste pour moi de répondre.
En tout cas,
répondre.
Vous étiez bien allumé ce jour-là.
Je vais laisser Vincent répondre parce que l'une des voix qu'on entend, c'est la mienne, donc je ne vais pas.
Je ne vois pas du tout ce que c'est et à la limite, je vais répondre par déduction. Je trouve que le commentaire est trop long pour être un 100 mètres. Les deux autres, c'est quoi? C'est
4 fois 400
ou alors
ou
100 mètres.
Oui.
Non, 4 fois 400.
Bonne réponse. Bravo. Et donc tu
Bravo.
Nous confirmes,
oui.
Puisque tu savais, avec Galapia qu'on entendait, c'était toi.
C'était extraordinaire, c'était à Zurich au championnat d'Europe 2014 de mémoire. Et la dernière relayeuse française, effectivement, est remontée de la 5e à la première place.
Oh.
Ouais, c'était vraiment un.
Ça arrive rarement.
Très, très rarement, surtout à la
c'était,
France.
C'était donc, en quelle année qu'on a eu un coureur, je crois que c'était sur une longue distance, qui a couru avec son jogging et qui est parti dernier et qui a remonté tout le monde.
C'était en 1896, lors des premiers, premiers Jeux Olympiques modernes d'Athènes.
Je ne sais pas si c'était en Jeux Olympiques ou en Championnat du Monde, mais moi, j'étais gamin, et un mec est parti sur la ligne de départ avec son jogging, et il a remonté tout le monde.
Michel Jazzy.
Peut-être. Jazzy, ça pourrait être une bonne réponse. Ouais.
Quel club Jean-Michel Larquet a-t-il entraîné?
Le PSG?
Saint-Etienne?
Ou l'équipe de France?
Non, pas l'équipe de France.
Entraîné.
Il a joué à Saint-Etienne. Par conséquent, par déduction, oui, pour remettre un mot de Vincent, je dirais qu'il a entraîné brièvement le PSG.
Moi, je dirais Saint-Etienne.
Ben moi, je dirais peut-être PSG, pour pas que ce soit exactement la même
réponse. Eh bien, bonne réponse de Nelson. C'est le PSG de 77 à 79. Ah, oui. Mais il a également été directeur technique de Saint-Etienne.
Donc, voilà, j'ai confondu.
Donc, un demi-point, on va dire, pour la gaffe. Quel fut le premier à être commentateur sportif français pour un jeu vidéo de football?
Thierry Gilardi.
Thierry Roland.
Christian Jean-Pierre.
Un jeu vidéo sur le football.
Maintenant, c'est Hervé Matou.
Je dirais Thierry Roland. Enfin, Gilardi.
Thierry Roland.
Ouais, je dirais Thierry Roland quand
toi,
même, c'est le plus ancien.
J'ai aucune idée.
Tu joues pas aux jeux vidéo de foot ?
Mais le foot, j'ai jamais compris non plus comment on y jouait.
C'est
donc
11 contre
par
11.
Par contre, grimper avec un tuyau au-dessus voilà, de la mer, tu ça, sais oui, faire.
Moi, s'il n'y a pas des chevaux avec un moteur qui fait du bruit,
t'aimes pas.
Je suis pas devant l'écran.
T'as répondu Gilardi, comme ça, ce sera pas la même réponse peut-être.
Ouais, toi, tu veux vraiment que je m'éloigne.
Non, alors moi, je dis Gilardi.
Bon,
moi, je dis Gilardi et toi, tu dis Roland.
Voilà, Thierry Roland. Voilà.
Thierry Roland, eh ben, il t'a filé la fausse réponse. C'est Thierry Gilardi. Nelson,
Gilardi.
Ta gentillesse te perdra.
On va se retrouver à Fort Boyard. On va se retrouver
et
à
ça donnait ça.
Eh bien, voyons ce qui va résulter de ce coup de pied arrêté. Et il franchit la ligne et va au fond
des filets. Il a enregistré plein de phrases.
Tu me fais beaucoup de peine.
Quel film a été inspiré par le célèbre commentateur Eugène Saccomano ?
Borsalino ?
Les Tontons Flingueurs ?
Ou Le Samouraï ?
Borsalino.
Borsalino, il a même écrit le scénario.
Très juste, ouais, c'est d'après son livre. Il était jeune journaliste au Provençal, ça s'appelait « Bandit à Marseille », c'est publié en 59. À propos d'une action sportive qui déclare « C'est aussi moche que la première fille avec qui je suis avec ».
Georges Eddy durant un match de basket.
Patrick Montel après la chute d'un athlète.
Christian Jean-Pierre après un pénalty raté.
Je dirais, c'est pas très joli hein, comme phrase. Georges Eddy, c'est un commentateur américain de basketball, donc je pense qu'il maîtrise pas complètement la langue française. Je dirais lui, je pense.
Bonne réponse.
Ouais.
Et
ouais.
Eh, j'ai pas répondu. Je vais dire
non,
comme,
oui, oui, oui.
Comme Nelson Paris.
Un point chacun.
Non, quand j'ai vu qu'il t'expliquait qui était Georges Eddy, j'ai compris que tu allais pas trouver.
Ah ben du tout.
Georges Eddy, donc, est un grand type à casquette qui fait semblant de parler américain depuis 40 ans. Et qui fait de fausses fautes de français, c'est évident. Mais la bonne réponse, c'est celle-là. Un extrait de ce Georges Eddy.
Le rebond est important, oui. 6 points, ça veut dire 2 possessions d'écart seulement, messieurs, dames. Ouh, oh, ça, c'était moche. Ouh, c'était moche. Aussi moche que la première fille que je suis sorti avec.
C'est comme Jim Birkin, il fait semblant d'avoir conservé l'accent.
On peut pas avoir des questions sur l'ordre d'allumage d'un V8 ou sur la pression de tarage d'un injecteur
Quelle est la pression de tarage d'un injecteur d'une Simca 1100 ?
On n'avait pas d'injection sur les Simca 1100, on était en carbu. Mais c'était un moteur atmosphérique avec un ordre d'allumage à 1, 3, 4, 2 qui n'intéresse personne.
Bonne réponse de Vincent Lagaffe. Et je me tourne vers Anissa, notre rose des sables.
Qui a perdu
J'ai perdu ma feuille. Mais alors j'ai quand même rajouté un point, Vincent Lagaffe, pour l'injecteur, tout ça, parce qu'on a appris plein de choses quand même.
Bah,
on n'a pas retenu, mais on a appris. Mais ça, c'est quand même Nelson Montfort qui reste en tête face à Vincent Lagaffe
mais
sur cette manche.
Mais tout peut encore changer,
mais
ma chère
oui.
Anissa, ma chère Nelson, ma chère Vincent.
Erotin. Dès 16h, tous les jours, du lundi au dimanche sur Europe 1, Carl Zéro et ses tontons flingueurs s'amusent avec l'actu.
Alors Vincent, ton nom de scène est inspiré, tout le monde le sait, du personnage de
oui.
Gaston Lagaffe créé
oui.
par Franquin.
Absolument.
La légende, dont le jeune Ganesh de BFM TV a fait état en début d'émission, raconte qu'il t'a été affublé lorsque tu étais au Géo, au Club Med.
Absolument.
Et que tu accumulais un maximum de bourdes. Quel genre de bourdes ?
Ah ben, écoute, la première fois qu'on m'a appelé Lagaffe, on était en Roumanie.
Oui.
C'est d'ailleurs là que j'ai intégré le Club Méditerranée.
Mais il n'y en a pas de Club Med en Roumanie.
Ah si, si, je t'assure. Il y en a un qui s'appelait Roussalka à l'époque.
Ah ouais.
Si, si, il n'y est plus, hein, mais ouais. On en avait un.
Il n'y est plus depuis ton passage.
Il a fermé avec Ceausescu.
Ah ouais.
Et
C'était encore le bloc de l'Est.
Oui, ouais, on y était. Et même à cette époque-là, on n'avait pas le droit d'importer les feux d'artifice du 14 juillet. C'était l'armée roumaine qui nous le tirait à coups de char d'assaut. Je te jure, c'est vrai. Un truc de fou. Je suis avec le chef de village et Patrick Nugier. On est dans l'eau. Il est 2h de l'après-midi. On a de l'eau jusqu'au mi-cuisse. Et on regarde les gens évoluer avec les petits dériveurs. Et il y a un monsieur qui arrive avec son dériveur et qui dit à sa femme qui se trouve donc sur la plage derrière nous « Chérie, donne-moi mes lunettes. J'ai mal aux yeux. » Et sa femme avait un nourrisson de 4-5 mois dans les bras. Et elle prend les lunettes et elle s'aperçoit que pour porter les lunettes à son mari, il faut nager. Et donc, plutôt que de me dire « Tiens les lunettes, lunettes à porter à mon mari. Elle me dit, garde le petit, j'emmène les lunettes. Et je lâche le petit dans l'eau. Et je mets facilement 30 secondes à le retrouver.
Oh là là là.
Et sa maman ne l'a jamais vu, le papa ne l'a jamais vu. Et hop, j'ai ressorti le gamin, tout mouillé. Et elle dit, oh, c'est gentil. Je dis, ouais, tiens, reprends-le vite, voilà. Et là, le chef de village m'a dit, mais toi, vraiment, on va t'appeler Gaston Lagaffe.
Je vais donc te soumettre, ainsi que notre ami Nelson Montfort, à ce quiz Lagaffe ou Lagaffe.
Il a complètement craqué.
Alors, qui sort en premier quand on googlise le mot Lagaffe sur Internet? Est-ce que c'est Gaston Lagaffe ou Lagaffe?
Je crois que c'est moi. Bah, moi, très prétentieusement.
Pour que le jeu soit amusant, je dirais que c'est le personnage de Franquin.
C'est prétentieux, mais c'est la bonne réponse. Lagaffe est désormais plus connu que Gaston Lagaffe. Qui a vu son film diffusé à 20h40 sur OCS le 20 février dernier? Gaston Lagaffe ou Lagaffe?
Non, c'est pas moi, ils n'ont pas pu passer le baltringue. Non, c'est injouable. C'est Gaston Lagaffe.
Pourquoi qu'est-ce qu'il a, ce film?
Avec ma fille, on est dans le top 3 des ratages, là. 48 000 entrées.
C'est peu.
Bon, bah alors, on va dire l'autre. Ouais, non, alors, Gaston Lagaffe, alors.
C'est Gaston Lagaffe, effectivement, qui a été réalisé par Pierre-François Martin Laval, sorti en 2018. Mais rappelons qu'en 81, Paul Bougenat s'y a été essayé avec Fais gaffe à la gaffe, avec Roger Miremont et Marianne Chazelle.
Mais ils n'avaient pas eu les droits.
Non, et c'était un nanar de la stratosphère, ça, il n'y a aucun doute.
Il l'appelait Monsieur G, il ne pouvait pas dire vraiment Gaston.
Ils avaient fait un Gaston Lagaffe, mais sans les droits de Gaston Lagaffe.
Tandis que moi, j'avais fait Le Baltringue, qui a été regardé par 48 000...
Oui, mais alors ça, Vincent, tu viens de nous le dire.
Ah, tu savais pas. Ah, non, mais j'ai fait un film qui s'appelle Le Baltrin, que j'ai écrit, réalisé, produit et tout, et je me suis béné lamentablement.
Vous voulez qu'on écoute un extrait du Baltrin?
Tu l'as? Non, tu déconnes.
Oh, je peux le retrouver en deux secondes.
Ah, oui, ça.
Les gars? Ah non, ils sont en grève. Qui a vu le jour à la fin des années 50? Vincent ou Gaston Lagaffe?
À la fin des années 50, moi.
Les deux?
Moi, je suis né fin des années 50.
Ah, je crois que...
Je dirais que les deux, non il a
les deux. C'est Nelson, là, qui
il
marque.
Il a dit les deux, tout de suite.
Et ouais.
Toi, t'as dit moi.
Je ne sais pas en quelle année, lui, il est né.
Lui est né en 57 et toi en 59.
C'est ça.
Et
c'est
voilà. Ça. Je m'excuse, mais je donne le point à Nelson.
Fumier.
Qui est capable de s'envoler dans les airs sur une invention grotesque à suspension hydropropulsée avec un tuyau dans le cul.
Ah, oh, c'est moi, que du bonheur.
Oui, c'est toi. Allez, on lui donne le poids. Qui est considéré comme le glandeur le plus cool de l'histoire? Gaston Lagaffe ou Lagaffe?
Gaston Lagaffe.
Oui, je pense quand même, oui.
Eh non, égalité parfaite. Ah bon. Difficile de les départager.
Alors arrête, j'ai passé ma vie à bosser.
Oui, alors c'est pas ce que disent tes proches. Là-dessus, le dossier est assez mince. Qui s'est récemment pris la teutée avec un célèbre animateur-producteur de D8? Gaston Lagaffe ou Lagaffe?
Question suivante. C'est moi.
Une embrouille après une déprogrammation d'un jeu nommé Strike, qui a été présenté par Lagaffe, et pas par Gaston Lagaffe, et produit par Hanouna.
Ouais.
Et là, embrouille.
Non, pas embrouille, mésentente.
Cordiale.
On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, et on a préféré s'arrêter là.
Comme dirait Thierry Roland, vous partirez pas en vacances ensemble?
Même pas, franchement, non. Et il est même pas hors de question qu'on ne travaille pas un jour ensemble. Mais bon, là, ouais, c'est vrai qu'il y a eu une petite couille dans le potage, voilà.
Ce sont des choses qui arrivent, je me tourne vers Anissa. Pour le bilan.
Eh bien, sur cette manche, Lagaffe ou Lagaffe, c'est logiquement Vincent Lagaffe qui est en tête face à Nelson Montfort.
Gros retour.
Est-ce que j'ai récupéré mes deux points?
Alors, on va faire le total après, dans la sixième partie qui arrive d'ailleurs. Europe 1. Des tontons flingueurs, Carl Zéro, de l'actu, des jeux et de la bonne humeur. C'est votre programme, même le week-end, sur Europe 1 à partir de 16h.
Souvent injustement critiqués par rapport à leurs homologues étrangers, les commentateurs de foot français sont pourtant aussi des passionnés capables de belles envolées. Leur tempérament latin finit souvent par prendre le dessus, parfois même lorsqu'on ne l'attend plus. Et de son côté, Nelson Montfort, ici présent, n'est pas en reste lorsqu'il s'agit de délirer gravement. Je vous propose donc pour conclure un quiz des commentateurs Nelson Montfort versus tous les autres.
Les cas, moi, je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne.
Oh, il est magnifique.
Étonnant. Alors attention, on se concentre, c'est hyper difficile. Est-ce que c'est Nelson ou les autres? Et si c'est les autres, qui donc?
Nothing, nothing at all.
Bon, bah c'est
nothing,
Nelson.
I don't regret nothing.
On écoute.
All the good that I've had, all the bad, this doesn't count at all, no.
Mais lui aussi, il y a une époque de drogué. Hein.
No, I don't mais regret anything.
Complètement piqué, ce Nelson Montfort.
On m'avait demandé de faire, d'improviser une version anglo-américaine de Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf qui n'existe pas, sans texte, sans rien du tout, voilà. Donc c'est l'explication
donc
de cette...
Donc tu as fait Google Traduction en
live. Non, rien du tout.
Non, il a fait
vraiment
un gros pétard.
Rien
avant.
Du tout.
Attention, deuxième extrait, Nelson ou les autres?
Ce que tu méritais à toi, il a pas. Si le neuf, tu n'as pas le choix. Je te perdrai peut-être là-bas.
Oh, Nelson.
Je te perds si
Nelson encore.
Tu connais son timbre de voix?
C'est quoi, c'est un doigt dans la porte du buffet, là, il gueule.
C'est pas sa tonalité en tout cas. C'est un peu haut pour toi.
Un petit peu haut, mais.
Mais bon, c'est pour ça qu'il galère.
C'est une chanson tellement magnifique. Il y a pas si longtemps d'ailleurs, ici au Palais des Sports, non loin d'ici. Ouais.
C'était sur scène.
C'était sur scène, sans prompteur, quasiment sans répétition. Peut-être que la tonalité est un peu haute, mais la chanson...
Et 100% des places remboursées, malheureusement, à l'issue du spectacle.
C'est vrai, exactement.
Nelson ou les autres?
Attention, violon qui va tirer! Tirez, marre!
Les autres. C'est comment ils s'appellent?
On en parlait tout à l'heure.
Nelson.
C'est pas moi. On parlait, un bandit.
Un célèbre
bandit.
D'Europe 1.
Ah, Eugène Sekomano.
Mais voilà. Son célèbre voilà. Yi.
Ah oui.
C'est le Yi d'Eugène. Nelson ou les autres?
Et Camille, tous nos voeux de bonheur pour le 17 août. Un joli événement qui arrive.
Ce n'est
plus un secret. Fabien Lélu, vous serez jeune marié le 17 août. Et tous nos voeux vous accompagnent.
Alors ça, c'est une bourde.
Enfin, c'est une semi-bourde parce que son manager m'avait dit dis-le-lui en direct, ça lui fera plaisir. Et effectivement, ça lui a fait moyennement plaisir. Ah. Cela dit, le mariage a bien eu lieu le 17 août.
Il n'a pas été annulé à cause de toi.
Non. Bon.
C'est Camille Lacour qui a épousé Valérie Beck, je le rappelle, pour les petites infos
people.
Je l'avais noté.
Bien sûr.
Ça faisait partie de mes éphémérides que je tiens à jour.
Mais dans ce genre de truc, moi, au Big Deal, je me souviens, il y avait une dame un peu forte qui venait jouer et le directeur artistique m'avait dit félicite-la pour son heureux événement et elle n'était pas enceinte du tout.
Ah mince, oh là là.
Et alors vraiment, félicitations, mais quoi? Ben vous attendez un enfant? Non. Bon, alors le rideau.
C'est des trucs qui arrivent. Bon, attention, on se concentre encore. Nelson ou pas Nelson?
L'équipe de France est championne du monde. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille,
Thierry
enfin
Roland.
Plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe.
Quel pied!
Oh putain!
Non, jamais Nelson.
Jamais Nelson. Jamais de gros mots. Non, en revanche, ceci.
Ici, bien sûr.
I'd just like to thank the Lord Jesus because without him, I wouldn't have this talent to play tennis.
Et j'aimerais également remercier Luigi, me semble-t-il avoir compris, non. Car sans lui, je ne serais pas un joueur de tennis. Et Michael qui donne rendez-vous, bien entendu, à l'année prochaine.
Nelson, il a remercié Jésus.
C'était alors, génial.
Je voulais juste faire ce Luigi.
Très court.
On comprend
court.
Pas, là, Nelson.
Il s'agit donc de, moi non plus. Il s'agit donc de Michael Chang, vainqueur de... Et à chaque tour qui passait, il est très croyant. Il est très croyant et il remercie à chaque fois le Seigneur, donc Jésus. Mais seulement le problème, il y a 15 000 spectateurs sur le cours central, un brouhaha du diable, etc. Oui. Et Jésus. Et j'entends effectivement, c'est une finale quand même, donc le cœur bat un petit peu.
Oui.
Luigi, que j'avoue ne pas connaître, alors que bon, Jésus, je le connais quand même un petit peu. Et là, et alors, si tu veux, pour terminer, nous avons comme leitmotiv absolu de ne pas se contredire à l'antenne, c'est-à-dire de pas. Mais là, Jean-Paul Lot, qui est un seigneur, hein, vraiment, là, il ne pouvait pas. C'était trop. voilà, donc.
Ouais. Oh, c'est rigolo quand même.
Mais ouais. Oui, c'était ouais. Hyper touchant.
Ouais, en même temps, on aurait pu créer une nouvelle religion autour de ce Luigi. Eh bien, l'heure maintenant a sonné, Anissa, de nous dire qui.
Alors, eh bien, ça se joue à un point quand on totalise toutes les manches. Et à un point près, c'est Vincent Lagaffe qui l'emporte.
Ah, incroyable.
Je retourne dans le milieu agricole d'où je viens. Absolument.
Eh oui, terminé tes conneries de tuyaux.
Mais n'en ris pas, parce qu'un jour tu descendras dans le sud de la France, je te ferai essayer ça et tu tomberas amoureux de ce sport.
Ah ben je vais être là. Hein.
Je viendrai.
Ouais, je veux voir ça.
Le on défi est accepté et je deviendrai à mon tour champion de tuyaux.
Non, non, mais je t'assure, je ne connais pas une personne...
Qui n'est pas adorée.
Qui n'est pas adorée.
Tu l'as fait.
Ouais. Ouais. Enfin, j'ai essayé, mais effectivement, en Fort Boyard l'été dernier, c'est très très sympa.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci.
Alors, je vous rappelle, Karl, que Nelson Montfort, vous allez pouvoir l'applaudir sur scène avec la tournée Les Copains d'abord and Guest. C'est une tournée hommage à Georges Brassens, avec des adaptations des plus grands succès de Georges Brassens. Il y a une tournée le 20 juillet à Samoins, à Enghien-les-Bains, 18 octobre. Vous retrouvez toutes les dates sur lescopainsdabord.com. Et puis, Vincent Lagaffe, avant de le retrouver dans Fort Boyard, on va l'applaudir sur scène à partir du 6 mars, sur la scène du théâtre du gymnase Marie-Belle, dans la pièce à succès de Philippe Lelouch, Le jeu de la vérité. Et Vincent Lagaffe, il est aux côtés de Christian Vadim, Mélanie Page et David Brécourt. Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, vous écoutez Karl Zéro et ses tontons flingueurs. Karl revient pour jouer avec l'actu demain, lundi, à 16h.